Il n'y a qu'à si.
Merci de votre participation. Merci Yann.
Merci à vous pour l'invitation.
Cécilia, merci d'être passée et d'avoir éclairé un peu le programme de France Insoumise. Tu étais là pour ça.
Merci beaucoup.
Ulysse, merci. Tu as quand même parlé, tu vois. Tu vois qu'on a envie dans le jeu, on se lance et on a envie. Jean-Luc, merci pour tes questions. Merci de ta participation. Sur la troisième table politique, c'est Hélène qui sera, qui
sera à ta place. Le 5, je crois.
Voilà, ouais, le 5, le dernier mercredi. Le dernier, ouais. Allez, le monde changera sans fin. N'oubliez pas d'y être ni flexible, ni adaptable, ni soumis, ni mobile. Et surtout pas récupérable, ni rééducable, d'y rester face à l'injustice. Ingérable, indocile, ingouvernable, mutin, saboteur, sauvage, résistant et révolté. Sans oublier partisan. Allez, à que ciao, bonsoir, à mercredi prochain.
Imaginez toujours les guérisons de nos morts.
Il est 18h30 sur la Clé des Ondes et c'est l'heure de Point Chaud. Point Chaud, tous les jours de 18h30 à 19h, c'est un tour de l'actu social et culturel sur la Clé des Ondes. Ce soir, on vous propose de réentendre l'essentiel de ce qui s'est dit dans notre plat de résistance. C'était ce midi sur notre antenne. On commence avec d'autres infos en bref, à commencer par Total, ses actionnaires et la multinationale Total qui sont visés par une plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. Hier, 8 victimes du changement climatique et 3 ONG ont porté plainte au tribunal judiciaire de Paris. Ces ONG, il s'agit de Bloom, Alliance Santé Planétaire, la mexicaine Nuestro Futuro. Les dirigeants et actionnaires sont encore accusés d'homicide involontaire et d'abstention de combattre un sinistre et des atteintes à la biodiversité. Les dirigeants de Total sont au courant depuis plus de 50 ans des conséquences catastrophiques de leurs activités, rappelle le média reporter.net. Ils ont choisi de persévérer en sachant pertinemment que cela mettrait en danger des personnes, dénonce notamment l'ONG Bloom. L'Assemblée générale de Total doit justement avoir lieu ce vendredi 24 mai. Attention à ce que vous votez, lancent ainsi les ONG aux actionnaires. Votre responsabilité pénale est engagée. Fin de citation. On revient à Bordeaux, avec l'université Bordeaux-Montaigne qui ne connaît toujours pas son futur président. Le conseil d'administration devait se prononcer hier à travers un vote, mais les deux prétendants sont arrivés à égalité. Lionel Larré, le président sortant, et Alexandre Perrault, son challenger, ont réuni chacun 15 voix. Certains syndicats ont refusé de se prononcer, tout comme les représentants des collectivités locales. Un nouveau vote doit donc avoir lieu le 5 juin prochain et un nouvel appel à candidature a été lancé. Rappelons que les élections de ce printemps ont eu lieu sur fond de mobilisation contre les violences sexistes et sexuelles et que la prise en compte de ces questions par le ou la future présidente sera particulièrement observée. Bordeaux, toujours avec la flamme olympique qui sera de passage ici demain après-midi. Attention, si vous circulez à ce moment-là, ça risque d'être bien compliqué. Parmi les sujets que soulève l'organisation de cette compétition internationale, il y a la vidéosurveillance. Les JO et les JO paralympiques ont fourni à la France l'occasion de légaliser la vidéosurveillance algorithmique. Et des collectifs craignent l'arrivée prochaine de la reconnaissance faciale en France. Reconnaissance faciale qui marquerait le basculement vers une société de surveillance encore plus aboutie. C'est le cas parmi ces collectifs qui craignent cela. C'est le cas d'Amnesty International qui a lancé une campagne sur ce sujet et qui est présente pour en parler à Bordeaux aujourd'hui, ce mercredi, de 10h à 18h sur la placette de Munich. C'est sur les quais entre les Quinconces et la place de la Bourse. Et nous, on reviendra sur ce sujet à travers la chronique des Clés des Libertés demain midi dans le plat de Résistance. Enfin, à l'agenda, deux événements. Un débat sur la politique française et la politique européenne de l'asile et de l'immigration seront présents pour décrypter cette question des membres de la Ligue des droits de l'homme, de la CIMAD, de l'Institut de défense des étrangers, de Médecins du Monde, ainsi qu'un député européen, Damien Carême, pour cette discussion donc, qui aura lieu ce mercredi soir à 18h30 à la Halle des Douves à Bordeaux. Et puis, deuxième événement, ce sera ce samedi. Le combat contre la réforme du collège se poursuit, notamment contre l'introduction des groupes de niveau. La prochaine étape, ce sont donc des manifestations dans toute l'académie ce week-end, dans chaque département, à l'appel des syndicats UNSA, CFDT, FO, FSU, Sud, CGT et également de la FCPE, la Fédération de parents d'élèves. Pour Bordeaux, le rendez-vous est donné donc ce samedi à 14h, place Stalingrad. Midi 14 sur la clé des ondes. Alors, on avait dit que cette année serait décisive pour le projet de LGV entre Bordeaux, Toulouse et Dax. Et effectivement, les mobilisations ne s'arrêtent pas. Après une première sarabande qui avait eu lieu en septembre 2023 en Gironde, après la grande vadrouille le 20 avril dernier à Cadojac, juste au sud de Bordeaux, c'est la sarabande 2 qui aura lieu ce week-end. Une sarabande qui partira samedi du sud Gironde à Saint-Michel de Castelnau pour se rendre jusqu'à Vianne dans le Lot-et-Garonne dimanche. On évoque tout de suite cette mobilisation avec un membre du collectif Stop LGV 47 qui est l'organisateur de cette mobilisation. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous pour évoquer cette mobilisation. Alors peut-être commencer avec un mot sur ce collectif Stop LGV 47. C'est quoi son histoire à ce collectif, Sébastien ?
Alors Stop LGV 47 a été créé en regroupant différentes associations qui existaient auparavant. Donc cette création, elle date de février 2023. Et en particulier des associations historiques qui luttaient déjà contre l'LGV, comme Très Grande Vigilance en Albret ou comme l'association de sauvegarde des coteaux des Landes de Gascogne. Et puis aussi donc des associations environnementalistes du 47, du Lot-et-Garonne.
C'est quoi, vous, dans le 47, dans le Lot-et-Garonne, c'est quoi les raisons principales pour lesquelles vous vous opposez à la construction de cette ligne LGV ?
Alors, il nous semble que c'est un projet démesuré par son coût, par les destructions qu'il va occasionner avec l'artificialisation de 4800 hectares. Et que donc cette démesure, elle est surtout donc à mettre en relation avec un gain limité de temps sur par exemple le trajet Bordeaux-Toulouse, ce serait une heure avec la LGV. Mais nous, on défend plutôt la rénovation des lignes existantes qui permettrait de gagner une demi-heure. Donc finalement, le coût global du budget initial, c'est 14 milliards pour gagner une demi-heure, soit la différence entre une heure par la LGV et puis une demi-heure pour la rénovation des lignes.
Et alors, vous, dans le Lot-et-Garonne, vous avez une situation rien que géographique particulière et donc qui amène, j'imagine, une situation particulière par rapport à ce projet, c'est que vous êtes entre Bordeaux et Toulouse et on sait que le principe de ces LGV, c'est d'être quand même des tunnels où on va très vite d'un endroit à un autre, mais ce qu'il y a entre les deux ne compte pas trop. Il me semble qu'il y a une gare qui est prévue, c'est celle d'Agen sur ce projet, une gare LGV, une nouvelle gare qui s'installerait à Agen. Est-ce qu'il y a des gens qui disent, ben voilà, on va profiter de cette ligne? Ou est-ce que c'est plutôt cet effet tunnel que vous appréhendez, Sébastien ?
Alors, il y aura forcément des TGV qui vont s'arrêter effectivement à proximité d'Agen, mais là encore, le gain de temps pour les habitants de la ville d'Agen sera limité, puisque la gare TGV, elle est en dehors du centre-ville, donc il y aura un temps de trajet pour s'y rendre depuis Agen, ce qui va annuler une partie du gain de temps par la grande vitesse. Donc oui, ça profitera, certains trains s'arrêteront dans le Lot-et-Garonne et ça profitera un petit peu à des Lot-et-Garonnais, mais nous on pense aussi que c'est l'ensemble des habitants qui sont à moins d'une heure de ces gares qui vont participer au financement, alors que la plupart de ces habitants n'ont pas besoin de gagner quelques minutes pour rejoindre Toulouse ou pour rejoindre Bordeaux.
Oui, puisque dans les communes du Lot-et-Garonne sont elles aussi soumises à cette fameuse taxe LGV, c'est ça, pour financer le projet ?
Oui, la règle, c'est toutes les communes qui sont à moins d'une heure d'une gare desservie par une LGV.
Vous parliez de la question des terres également. Il me semble que il y a une nouvelle gare qui serait construite, puisque la gare, j'imagine, pour les ingénieurs qui ont conçu le projet, la gare actuelle d'Agen n'est pas bien adaptée pour une ligne grande vitesse. Donc il y aurait une nouvelle gare installée à Brax, à 7 km de la gare actuelle d'Agen. Et puis les collectivités en profitent pour pouvoir construire un technopôle qui peut être connu par certains auditeurs, auditrices, pour l'opposition que ce technopôle avait suscité en 2015. Il y avait eu une ZAD à Sainte-Colombe en Bruyois contre la construction d'un technopôle. Donc c'est une sorte de zone industrielle, c'est ça qui a vu le jour depuis, avec là aussi des terres agricoles détruites. Sébastien?
Oui, c'est ça. Effectivement, il y a eu une lutte les années précédentes autour de syndicats agricoles, notamment, qui effectivement se sont opposés à ce projet de technopole qui existe déjà effectivement sur les communes dont vous avez parlé. Mmh.
Alors, on va dire un mot maintenant de cette mobilisation de ce week-end. Donc, il y avait déjà eu, je l'ai dit, une première sarabande en septembre de l'année dernière. Cette fois-ci, rebelote, donc sur deux jours, avec 40 km parcourus samedi, 20 km le dimanche. Donc, on partira en fait de l'extrême sud de Gironde pour aller vers l'est et vers le Lot-et-Garonne. C'était quoi l'idée au départ de cette sarabande? Pourquoi ce mode-là de manifestation sous forme de sarabande, de déplacement comme ça à travers plusieurs villages le long de ce département, Sébastien?
Alors c'est précisément le long du tracé de la LGV, c'est vraiment les communes, ça va concerner les communes qui seront sur ce tracé de la LGV dans le Lot-et-Garonne. L'idée c'était de reprendre la sarabande là où la première s'était arrêtée, effectivement à Saint-Michel-de-Castelnau. Et nous, notre objectif pour le collectif Stop LGV 47, c'est d'informer les habitants, parce qu'il nous semble que pour l'instant, le niveau d'information reste insuffisant. Donc, beaucoup de personnes ignorent le coût dont j'ai parlé tout à l'heure, ignorent de nombreux enjeux. Donc nous, c'est notre objectif. La sarabande, elle se déroulera avec des mobilités douces par opposition à la grande vitesse. On peut la faire en vélo, on peut la faire avec son véhicule personnel, évidemment. Et surtout, ce sera un événement festif avec de nombreuses animations, avec évidemment aussi des prises de parole pour informer les participants.
Donc effectivement, le tracé de ce déplacement va suivre le tracé de la LGV, c'est ça plus ou moins? Il y a par où ça passe, c'est quoi, à quoi ça ressemble cet espace là, cette zone là du sud Gironde et de l'ouest du Lot-et-Garonne, Sébastien?
Alors c'est une zone de forêt, on passe par des petites communes, les communes sur lesquelles se déroulera cette sarabande, ça va être par exemple notamment Pindère ou Pompogne, et puis Fargues-sur-Oubise le samedi soir. C'est là qu'il y aura une étape importante avec des concerts, avec une soirée complète à Fargues-sur-Oubise. Et le lendemain, le dimanche, on continue pour aller vers Vianne dans l'après-midi, avec là aussi deux concerts entre 14h et 16h, et on sera à Vianne dès... deux concerts entre 16h et 18h, et on sera à Vianne dès 14h30.
Et donc, alors, on va revenir sur ces concerts, mais il y a aussi des animations, c'est ça, un peu à chaque arrêt, des animations, des surprises dans la programmation?
Exactement.
Qu'est-ce qu'on peut en dire pour donner envie un peu?
Eh bien que par exemple on sera alors à Casteljaloux. Alors Casteljaloux n'est pas, donc ça c'est pour le samedi matin. Casteljaloux n'est pas sur le tracé. Donc là on fait une petite entorse au tracé, mais donc c'est un moment important à partir de 10h à Casteljaloux. Il y aura des percussions, une promenade festive, une manifestation joyeuse. Et puis il y aura des animations théâtralisées, il y aura des formes de débat aussi théâtralisées. Donc différentes préparations du collectif pour rendre ces deux jours agréables, pour permettre de s'informer et de réfléchir de manière festive. Mmh.
Et puis j'ai vu aussi qu'il y aurait une balade avec les naturalistes des terres, c'est ça, sur un des lieux, une partie du tracé de la LGV.
Oui. Donc ça, ce sera sur la commune de Pompogne à partir de 15h45 samedi 25, effectivement, donc une heure de promenade sur un site avec donc la participation d'une association qui s'appelle les Naturalistes des Terres, qui vont parler de nature, parler de tout ce que menacent les grands aménagements comme le grand projet du Sud-Ouest. Mmh, mmh.
Alors sur le flyer de présentation, le flyer du programme, il y a pas mal de logos d'orga qui soutiennent. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu c'est qui est-ce qui soutient, qui participe jusque-là à cette mobilisation, Sébastien, de collectif Stop LGV 47?
Alors, de nombreuses associations qui sont au sein du collectif. Et puis ensuite, en dehors du collectif du 47, nous sommes nous en lien avec de très nombreuses autres associations et collectifs. Ça peut aller du CAD dans le Pays Basque, donc des associations girondines. Et puis on est tous regroupés au sein de LGV Non Merci, qui dispose d'un site internet où il y a des informations très riches et très approfondi. Donc moi j'engage toute personne qui se pose des questions sur ce projet à rejoindre, enfin à aller s'informer sur lgvnonmerci.fr. On trouve beaucoup de choses.
Mmh. Et les mairies, les collectivités locales, comment elles se positionnent? On a parlé de cette taxe-là sur les communes. Est-ce qu'il y a aussi du soutien de la part de certaines mairies dans le Lot-et-Garonne, Sébastien?
Oui, bien sûr, c'est le cas de Café de Jaloux qui nous accueille, ou de Vianne aussi pour certaines étapes, ou de Fargues-sur-Ourbise. Donc, certains élus sont favorables à la LGV, d'autres sont avec nous en lutte contre les destructions qu'elle occasionnera, ou qu'elle occasionnerait parce que nous, on souhaite qu'elle ne voit pas le jour. J'ajoute que de nombreux recours juridiques ont été déposés auprès de tribunaux administratifs, et en particulier un collectif de 80 élus du Sud Gironde a donc déposé un recours contre les frais non programmés du grand projet du Sud-Ouest, et puis contre le fait que toutes les collectivités territoriales ont signé un protocole où elles s'engagent à couvrir les éventuels dépassements qui sont évidemment prévisibles. Donc le problème financier est important pour les collectivités territoriales et les habitants vont avoir à payer encore pendant de nombreuses années cette LGV. Mmh, mmh.
Peut-être juste un dernier mot. Pour ce qu'on connaît, nous, à côté de Bordeaux, on a l'impression qu'en Sud-Gironde, il y a une mobilisation qui commence vraiment à prendre avec de plus en plus de personnes qui sont au courant de cette question et qui ont envie de se bagarrer contre la LGV. Vous avez l'air de dire qu'en Lot-et-Garonne, c'est encore un petit peu... C'est pas encore ça, qu'il y a encore assez peu d'informations, beaucoup de désinformations sur ces questions-là. C'est ça, il y a un vrai effort de ce point de vue-là pour faire connaître ce projet, ce qui l'entraînerait et les alternatives possibles, Sébastien ?
Oui, oui, c'est exactement ça. C'est pour ça qu'effectivement qu'on multiplie ces dernières semaines les actions. Donc il y a eu Cadojac dont vous avez parlé dans le sud de l'agglomération bordelaise. On a aussi déployé un grand nombre de panneaux sur les 213 communes du Lot-et-Garonne pour informer que effectivement les habitants paient cette taxe qui s'appelle la taxe spéciale d'équipement, qui est sur la taxe foncière depuis déjà l'année dernière. Et c'était en lien aussi avec des collectifs de Gironde, des communes de Gironde ont eu aussi ces panneaux qui annonçaient la présence de cette TSE, de cette taxe LGV. Mmh.
Merci beaucoup Sébastien, je rappelle membre du collectif Stop LGV 47. On rappelle donc que toutes les infos peuvent être trouvées sur le site lgvnonmercitoutattaché.fr. Et on va terminer par un des groupes qui sera en concert ce samedi, je crois, King Kong Blues, avec ce titre fort à propos, Le Train. Merci beaucoup Sébastien.
Merci.
Le train King Kong Blues, voilà, ça réveille. Midi 30 sur la clé des ondes, et ben voilà, depuis la semaine dernière, on disait comment on parle, comment on fait écho à ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie et qui nous paraît comme bien atroce ces derniers jours. Et c'est Gérard Clabé qui est venu nous aider et nous apporter la réponse à ça. Salut Gérard.
Salut.
Gérard Clabé, du guide du Bordeaux colonial, bien sûr, qu'on entendra d'ailleurs juste après à partir de 13h. Je te laisse la parole pour ce sujet sur la Nouvelle-Calédonie.
Oui, et merci à Jean-Luc Ottili qui, au congrès de la LDH samedi dernier, où nous étions, la Clé des Ondes, m'a mis en contact avec François Carré, que nous allons avoir en direct tout de suite. Alors, un petit rappel de la situation. La crise actuelle est très grave. Elle rappelle celle pas si ancienne que certains semblent avoir déjà oubliée pourtant, et c'est pas le moins tragique de l'affaire. Elle rappelle la grave crise de 1984-88 qui avait failli tourner à la guerre civile entre Kanak et Caldoche, avec l'épisode traumatique de la grotte d'Ouvéa en avril-mai 1988. Et cette crise de 84-88, elle avait fait au total 90 morts sur une population à l'époque de 160 000 personnes. Alors, Mitterrand, réélu en mai 1988, nomme Michel Rocard Premier ministre, et celui-ci se fixe immédiatement comme priorité de trouver une solution pacifique au problème néo-calédonien et désigne, 5 jours plus tard, une mission. D'ailleurs, c'est assez marrant, une mission, c'est le même terme qu'utilise Macron aujourd'hui, une mission de dialogue. Ça, c'est pas le terme qu'utilise Macron aujourd'hui, pour préparer les négociations. Et cette mission arrive sur le territoire le 20 mai 1988. C'est presque jour pour jour, 36 ans plus tard, rendez-vous compte. Et à la suite de cette mission, eh bien, les trois, l'État, les loyalistes et les indépendantistes se retrouvent à Paris, à Matignon, pour signer les accords Matignon le 26 juin 1988, où on décide de l'amnistie, où on décide du gel du corps électoral pour que la population kanak reste majoritaire dans les élections, et on décide du découpage en trois provinces. 10 ans plus tard, c'est l'accord de Nouméa, signé le 5 mai 1998 à Nouméa, donc en Nouvelle-Calédonie, toujours sous l'égide du Premier ministre Lionel Jospin à cette époque. Et l'accord prévoit des transferts de compétences irréversibles en Nouvelle-Calédonie dans de nombreux domaines, à l'exception de ceux de la défense, de la sécurité, de la justice et de la monnaie. 3 référendums sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie sont prévus par l'accord, avec la question claire suivante: voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? Mais je ne peux pas m'empêcher, avant l'entretien et l'interview en direct, de vous lire une partie, toute petite partie, du texte original de l'accord de Nouméa. Écoutez ça. La colonisation de la Nouvelle-Calédonie s'est inscrite dans un vaste mouvement historique où les pays d'Europe ont imposé leur domination au reste du monde. La colonisation a porté atteinte à la dignité du peuple kanak, qu'elle a privé de son identité. Des hommes et des femmes ont perdu dans cette confrontation leur vie ou leur raison de vivre. De grandes souffrances en sont résultées. Il convient de faire mémoire de ces moments difficiles, de reconnaître les fautes, de restituer au peuple kanak son identité confisquée, ce qui équivaut pour lui à une reconnaissance de sa souveraineté préalable à la fondation d'une nouvelle souveraineté partagée dans un destin commun. On peut dire qu'on est assez loin, malheureusement, de l'esprit de ces accords, notamment du point de vue de l'exécutif hexagonal actuel avec Macron et Darmanin. Alors bonjour François Carré.
Bonjour.
Alors vous êtes à Vancouver, vous rendez compte, la grande métropole sur la côte ouest du Canada, sur la côte pacifique. Il est quelle heure à Vancouver?
Alors il est exactement 3h34 donc en Colombie-Britannique, donc dans la ville de Vancouver. Et donc j'interviens effectivement pour en direct pour à la fois soutenir mes camarades du MJKF qui sont dans l'Hexagone. On est en fait un certain nombre à essayer de répondre aux sollicitations à la fois des médias, mais aussi du mouvement syndical, des associations comme la Clé des Ondes. D'ailleurs, je fais un petit bonjour effectivement à tous les auditeurs et toutes les auditrices de la Clé des Ondes. Et pour nous, c'est important effectivement de marquer notre présence à la fois dans les médias, mais aussi pour répondre à un certain nombre de controverses, mais aussi de contre-vérités qu'on peut entendre de ci et de là, à la fois en direct des JT ou d'autres débats, effectivement, sur la question de la Nouvelle-Calédonie, qui revient effectivement en plein fouet dans le débat à la fois politique internationale et nationale, et puis une répercussion assez importante avec les derniers événements dans le Grand Nouméa, en Nouvelle-Calédonie.
Alors François Carré, vous êtes Kanak, hein, vous êtes né en Kanaky, Nouvelle-Calédonie, où sur l'archipel?
Kanak, je suis Kanak et je suis originaire de la commune de Wailou, donc qui est une commune en fait qui se situe dans le centre de la Grande Terre, la plus grande île. En fait, la Nouvelle-Calédonie, c'est la Grande Terre, plus les trois îles de Loyauté, avec quelques îlots, les îles de Belette, et un peu plus au nord, à l'extrême nord, les îles Chesterfield. Donc, en fait, c'est une sorte d'archipel. Et moi, je suis originaire d'une commune de 4000 habitants qui est située sur la côte est de la Grande Terre.
Et vous nous avez dit que vous étiez membre du MJKF, le mouvement des jeunes Kanaks en France. Pouvez nous présenter assez rapidement le mouvement? Merci.
Alors, assez rapidement, le MJKF a été créé en fait en 2008-2009. C'était d'abord en fait un groupe de réflexion qui s'est interrogé effectivement sur comment pérenniser le travail d'information sur la Kanaky, la situation sociale, la situation politique, et puis pouvoir être en alerte de ce qui peut se passer concernant les problèmes sociétaux que peut rencontrer la Nouvelle-Calédonie, mais aussi participer à des débats sur l'anticolonialisme, sur ces questions effectivement de relations de solidarité, donc avec d'autres mouvements sociaux qui peuvent exister en France ou à l'international.
Ok, alors la crise actuelle en Kanaky, Nouvelle-Calédonie est très grave, particulièrement grave. Elle était malheureusement tout à la fois, on pourrait dire, prévisible et donc évitable.
Alors c'est à la fois prévisible, mais c'est aussi la conséquence effectivement d'un télescopage de provocations. Et ça, on peut le remonter en fait, si on peut situer de manière chronologique. Aux élections provinciales de mai 2019, la venue sur la scène politique et la création de l'EDI océanienne, qui est une organisation politique qui a été mise en place par la communauté wallisienne et poutinienne, qui pour une fois de l'histoire politique insulaire, la communauté wallisienne a décidé de prendre son autonomie politique.
Mais je vous remercie beaucoup François Carré, et je vous propose d'ailleurs qu'on se retrouve un petit peu plus tard pour suivre le déroulé des événements, et en espérant vraiment de tout cœur vraiment que cette violence s'arrête et qu'on revienne à l'origine de ces accords, c'est-à-dire des accords de décolonisation.
Oui. Ah oui, ce qui est important, c'est ça. C'est effectivement notre objectif, c'est que l'État continue effectivement son processus de décolonisation, puisque rien n'est terminé.
Merci, à bientôt.
Ok, merci, au revoir.
C'est la fin de notre point chaud pour aujourd'hui. Vous pouvez le réécouter.